Cette saison de Super Green Me est parrainée par l'ADEME, l'Agence de la Transition écologique, et Maïf, l'assureur militant. Merci à eux pour leur soutien et bonne écoute.
Ce qui est magique, c'est la sonorité du V8. Pourtant, je suis pas mélomane, mais écouter un V8 Maserati Gran Turismo tourner, bah, je pense que vous allez, à défaut d'aimer, ne pas désaimer. C'est pas possible.
Super Green Me, saison 2, épisode 13.
Ouais, c'est magique. C'est franchement magique. Ouais, je suis tombé un peu en... Ouais, un petit coup de foudre pour cette voiture. Voilà. Et c'est un coup de foudre qui dure parce que je l'ai toujours en tête, quoi. Et je l'avoue modestement, je regarde de temps en temps chez moi des vidéos de Maserati parce que voilà, avec le son, ouais, ouais. Non, c'est vrai.
Je vous présente Philippe, le père de Mathilde, mon beau-père donc. On l'a invité à manger à la maison ce soir et il nous raconte un vieux rêve, celui de s'acheter une Maserati pour sa retraite. Et attention, pas n'importe laquelle, une Maserati Gran Turismo. Sa sonorité et son esthétique l'ont charmé il y a 15 ans, et depuis, la passion est toujours là. Ça me rappelle mon rêve, que j'arrive d'ailleurs pas vraiment à m'expliquer complètement, moi qui n'aime même pas conduire, qui est d'avoir une Porsche. Si Philippe est chez nous ce soir, je l'avoue, c'est pas uniquement pour un dîner familial, c'est un peu intéressé. Mon beau-père, pour le coup, adore conduire, adore les voitures. Et j'ai envie d'analyser ce mythe, cette ambition de posséder une grosse voiture. Je commence par demander à Philippe à quand remonte son amour des voitures et des belles voitures.
Mon père était passionné d'automobile. Entre l'âge de son permis, 18 ans, et le moment où ça a dû s'arrêter, 37 ans, il a eu 37 voitures. Des voitures essentiellement neuves, jamais de voitures d'occasion. Pour la plupart, des voitures, on va dire, de haut de gamme. Alors qu'il n'était pas issu d'un milieu financièrement très favorisé. Mais en tout cas, c'était une de ses passions, donc... Il a dépensé beaucoup d'argent dans cette passion-là. Et donc, effectivement, depuis tout petit, j'ai été emmené dans des véhicules de très bonne qualité. À l'époque, il n'y avait pas de restrictions sur les vitesses. Le port de la ceinture de sécurité n'existait pas. C'était un petit peu une grande liberté. Si on se faisait arrêter par la maréchaussée, on avait toujours moyen de discuter un peu avec eux et puis d'aller boire un petit verre au bistrot du coin pour faire passer... l'amende, enfin voilà, l'époque était très différente, donc la voiture était le symbole le plus puissant de, d'une part j'ai une position sociale qui me permet d'eux, et je suis une personne libre.
Des fois on se construit en opposition contre ses parents, vous est-ce que ça a été le cas, ou est-ce que vous avez du coup suivi cette passion un peu de la belle bagnole de votre père?
Alors je l'ai suivi parce que j'ai toujours trouvé plaisir dans les belles voitures. J'ai eu l'occasion de conduire des très belles voitures. J'aurais pu m'en acheter. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai préféré consacrer l'argent que j'aurais pu mettre dans cette belle voiture à d'autres choses. Maintenant, il est clair que bien souvent, quand on arrive en deuxième période de vie, voire troisième, on a tendance à se dire, ah bah tiens, allez hop, la Porsche dont je rêve, ou la Maserati dont je rêve, ou telle voiture, peu importe la marque, je vais me l'offrir, les enfants sont élevés, tout va bien, j'ai plus de loyer, je me fais plaisir, je pourrais aller dans cette voie-là. Par contre, aujourd'hui, là, on va dire que les mentalités ont énormément changé, se sont même carrément retournées. Le fait d'avoir une voiture, on n'est pas écolo, on n'est pas respectueux de l'environnement, on est un pollueur, on embouteille, on gêne, on dérange... Aucun intérêt à avoir une belle voiture aujourd'hui.
Est-ce que ça compte vraiment dans le fait de vous restreindre dans l'achat de ce rêve ou pas?
Non, c'est pas le côté « Ah, si j'ai ça, on va me prendre pour un mauvais garçon, etc. » Non, c'est pas du tout ça. J'ai peut-être peur que le rêve disparaisse, en fait. le rêve, une fois qu'on l'a, bah, il n'y a plus de rêve, quoi. Mmh. Donc c'est peut-être ça le truc qui fait que je franchis pas le pas.
Et c'est quoi le rapport plus global que vous avez du coup à la voiture ?
Bah aujourd'hui, c'est plus devenu franchement un objet utilitaire qu'un objet plaisir. Parce que il n'y a plus cette possibilité de, ce qu'on disait avant, rouler. 80 sur la nationale, 30 en ville. Enfin, pour moi, c'est devenu un objet qui me sert à aller chercher mes paquets lourds et puis à partir en vacances à l'autre bout de la France.
Et aussi, la voiture nous procure quelque chose qui nous semble acquis, mais qui est, en réalité, un sacré privilège.
Ça représente une liberté. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, si tu as une voiture, tu peux changer de place. Si tu n'en as pas, ça peut être compliqué. Donc déjà, c'est une manière d'avoir cette liberté, sous la main.
Difficile de lutter contre l'incarnation de la liberté. Et alors, quand on a une grosse voiture, on a la liberté, plus une certaine sensation de pouvoir, de réussite, de fierté. Pour s'en passer de cet imaginaire, faut vraiment y aller. Surtout quand ça devient de plus en plus accessible. Et c'est le cas des SUV, qui sont pas des grosses voitures au sens de la marque prestigieuse, mais qui sont littéralement grosses. Et mon beau-père explique parfaitement leur succès.
Bah pourquoi les SUV ? Juste parce qu'on a voulu dire aux gens, regardez, pour le même prix, vous avez une voiture plus grosse, quoi. Donc, en gros, vous paraissez plus riche. C'est-à-dire qu'on a joué sur le côté « m'as-tu vu ?» Parce que, en fait, c'est quoi ? Plus ta voiture est grosse, plus tu es riche. Plus tu es un homme important. Donc, on a mis à la portée d'à peu près tout le monde la possibilité d'avoir une grosse bagnole. Donc, évidemment, pourquoi vous allez rouler dans une petite voiture à côté de plein de grosses voitures ? Puisque dans votre petite voiture, vous êtes vu comme une personne moins importante. Donc, ben, on va accéder à la voiture un peu plus grosse, parce que pourquoi je suis moins important que celui qui est à côté ? C'est tout. On crée des situations. En fait, tout ça, c'est une question d'ego. L'être humain a de l'ego. Dès l'instant où on crée des situations où on élève une catégorie par rapport à l'autre, ben évidemment, qu'est-ce que va faire celle d'en dessous ? Elle va essayer de rattraper celle du dessus. C'est tout à fait logique.
J'ai regardé les chiffres de vente des SUV, et c'est vraiment pas anecdotique. Il y a une obsession pour la grosse bagnole. Près d'une voiture achetée sur deux en France est un SUV. En 2023, il s'en est vendu plus de 800 000. Les trois plus populaires sont la Peugeot 2008, le Renault Captur, environ 25-30 000 euros, et la Tesla Model Y, entre 40 et 55 000 euros. Les SUV sont donc en quelque sorte des Porsche accessibles, quoi. C'est assez cher quand même, mais c'est pas non plus prohibitif. Comme ça, les constructeurs vous font croire que vous avez réussi, tout en vous extorquant plus d'argent que s'il vous avait vendu une petite voiture. Et d'un point de vue écologique, c'est bien un problème. Les SUV émettent, en moyenne, 20% de CO2 en plus qu'une berline, selon les chiffres de l'Agence internationale de l'énergie. Et ce que dit mon beau-père est très juste et me fait réaliser que si je rêvais tant d'une Porsche, alors que j'aime pas particulièrement les voitures, c'était pour montrer très facilement que j'avais changé de classe sociale, que j'étais devenu plus important. C'est qu'une question d'ego en fait. Sauf que le petit provincial que j'étais a réussi à grimper. Aujourd'hui, je suis arrivé dans une petite bourgeoisie culturelle parisienne et je me rends compte que non seulement j'ai pas besoin de cette grosse voiture pour prouver quoi que ce soit, mais en plus, le fait de ne pas l'avoir m'apporte un certain bénéfice social. C'est bien vu dans mon milieu de s'en passer, parce que c'est ostentatoire et polluant. Mais il faut reconnaître que dire ça dans ma position, c'est bien plus simple. Et je n'aurais pas du tout tenu ce discours il y a quelques années. Ce qui montre encore une fois que la question des imaginaires est intimement liée à celle de la justice sociale. C'est d'ailleurs un point qui est présent dans le dernier rapport du GIEC. Sans un cadre égalitaire, plus égalitaire du moins, si on ne lutte pas contre les inégalités, on fonce droit dans le mur. En clair, si les riches sont moins riches et les pauvres moins pauvres, ça apaise les rêves climaticides de chacun. Le hasard faisant bien les choses, le lendemain de ce dîner avec mon beau-père, se tient une votation sur les SUV à Paris. La mairie propose de tripler le tarif de stationnement de ces modèles. L'objectif est de rendre désagréable le fait d'avoir une grosse voiture polluante et de dissuader, sur le long terme, les potentiels acheteurs. Et je suis allé voter.
Bonjour.
Le 9, je crois.
Sur la gauche et la sortie, ça sera à gauche.
Merci.
Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai envie que la mesure soit adoptée, bien sûr, mais aussi car, et notamment sur des gros sujets comme la voiture, je pense que les pouvoirs publics ont un rôle absolument primordial pour faire évoluer les imaginaires, pour transformer une norme sociale. C'est ce qu'estime la sociologue et membre du Haut Conseil pour le Climat, Sophie Dubuisson-Kellier. Et elle fait le parallèle avec l'usage du vélo dans le podcast Chaleur humaine du journal Le Monde.
Pendant des années, on a dit le vélo en France, c'est pas possible, les Français sont pas prêts. Bon, je sais pas ce que ça veut dire être prêt pour le vélo. Et puis, on a eu le Covid, et puis là, on a construit des pistes. Donc, on a fait de l'infrastructure. Et puis, on a vu des gens qui ont vu des gens, donc l'action individuelle marche aussi, et qui ont dit, tiens, au début, c'est complètement ridicule de transporter ces enfants dans une bassine devant soi, comme ça, c'est dangereux. Et puis, finalement, non, c'est pas dangereux, on va le faire aussi, etc., etc. Donc, c'est ça qu'on appelle de l'action structurelle, en fait. Si on avait attendu que le vélo se développe en disant, ben, on va aller des plus riches aux plus pauvres sur le vélo et puis ça va marcher, ou on va mettre une statue du mec qui fait du vélo même quand il pleut, ben, je crois qu'on n'y serait pas arrivé, quoi.
Voilà ce que j'ai en tête quand je rentre dans l'isoloir et quand je glisse mon bulletin dans l'enveloppe.
Pour un tarif spécifique pour le stationnement des voitures individuelles lourdes, encombrantes, polluantes. Un peu là.
Alors, voilà, Scarlitti, Luca Emmanuel. À voter. Merci.
Merci beaucoup. Au revoir.
Le soir, les résultats tombent.
Après la consultation citoyenne de dimanche,
les SUV ne seront plus les bienvenus dans la capitale.
Les Parisiens ont tranché hier. Les SUV vont devoir payer plus cher.
Trois fois plus cher.
Pour se garer dans Paris.
Alors, tout n'est pas parfait dans cette mesure anti-SUV, entre guillemets. On peut chipoter sur le critère du poids des voitures qui a été retenu. Ça peut potentiellement toucher des familles, avec des enfants aussi. Mais c'est une bonne nouvelle. D'autant que c'est pas uniquement un sujet parisiano-parisien. Le maire de Londres a d'ores et déjà annoncé qu'il pourrait s'en inspirer. Et le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie s'est engagé à prêcher pour cette initiative dans d'autres pays. C'est un nouvel exemple que oui, l'action a du sens et peut avoir une influence assez considérable. Ça me rappelle un peu le combat qu'a mené ce syndicat de parents de quartiers populaires, Front de Mer, pour obtenir une alternative végétarienne à la cantine, pour que leurs enfants puissent mieux manger. Elles ont commencé en 2017, à l'échelle locale, en banlieue parisienne, et finalement, leur revendication a eu un écho national. Depuis fin 2019, et c'est inscrit dans la loi, toutes les cantines doivent proposer au moins un menu végétarien par semaine. L'alimentation et comment combattre l'imaginaire viandard, c'est l'horizon du prochain épisode. Super Green Me est un podcast imaginé par moi-même, Lucas Caltritti. Cet épisode, je l'ai écrit en collaboration avec Mathilde Mélin. Il a été réalisé et mixé par Solène Moulin, qui a aussi composé la musique originale. La saison 2 de Super Green Me est une production Studio Fact Audio. Si vous avez aimé cet épisode de Super Green Me, partagez-le, parlez-en autour de vous, et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Un immense merci à l'ADEME, l'Agence de la Transition écologique, et à Maïf, l'assureur militant, de parrainer cette saison 2 de Super Green Me. Maïf est une entreprise à mission qui a, dans ses statuts, l'objectif de contribuer à la transition écologique à travers ses activités. Ça passe notamment par l'arrêt des investissements dans les énergies fossiles, ou encore par la création d'un dividende écologique.
Maïf alloue 10% de son résultat annuel pour des actions de protection de la biodiversité, pour le climat et pour ses sociétaires les plus vulnérables.